en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 6 juin 2011, Georges-Henri Soutou, spécialiste de l'histoire des relations internationales, a prononcé une communication intitulée « Le nouveau système international » devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance, invitant à une réflexion sur le rôle des États dans la mondialisation actuelle. Il distingue deux sphères, celle des relations internationales et celle des relations transnationales. Écoutez-le maintenant en séance, enregistrée par Canal Academy.
Madame la vice-présidente, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, monsieur l'ambassadeur, mes chers confrères, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Après la fin de la guerre froide et de sa prétendue stabilité, trois visions du système international dominaient. Celle d'un nouvel ordre mondial, selon l'expression du président George Bush, le père, ordre mondial qui aurait enfin réalisé la vision des présidents Wilson et Roosevelt, celle d'un monde uni autour des valeurs démocratiques dont les conflits auraient été gérés par les Nations Unies et les organismes internationaux, sous le bienveillant leadership américain, évidemment. D'autres évoquaient un système très différent, marqué par une mondialisation accélérée, un système à la fois trans- et post-national, où les États seraient de plus en plus marginalisés et où les organismes internationaux pourraient, en cas de besoin, s'occuper directement du sort des populations sans se voir opposer le principe de la souveraineté nationale. Et bien sûr, beaucoup, troisième catégorie, beaucoup restaient au contraire fidèles au système international dit westphalien, comme le plus connu des réalistes aujourd'hui, réaliste terme à mettre entre guillemets, une expression des collègues de relations internationales, plus connu des réalistes aujourd'hui, Henry Kissinger. Je voudrais aborder le sujet avec vous, mais évidemment de mon point de vue en historien. Les points de vue des juristes ou des politologues ne sont pas forcément les mêmes, même si les conclusions peuvent se rejoindre et même si nous prenons les uns et les autres de plus en plus, heureusement, l'habitude de travailler ensemble. Mon axe d'explication centrale sera la conviction qu'il existe et qu'il a en fait toujours existé, au moins depuis le XVIIe siècle, deux sphères à l'intérieur du système mondial. La sphère des relations internationales entre les États et la sphère des relations transnationales qui ne sont pas ou peu concernées par les frontières étatiques ou la politique des différents gouvernements. Il est évident que la sphère non étatique se développe aujourd'hui, que les États contrôlent moins le système international depuis, en gros, les années 1970. D'ailleurs, je ferai remarquer que le système des États, et encore plus le système des États-nations, n'a pas toujours existé. L'Europe médiévale, par exemple, ne le connaissait pas. Mais les deux sphères ne sont pas étanches l'une à l'autre, elles s'interpénètrent et se sont toujours interpénétrées. C'est ce qui fait toute la difficulté de la synthèse que je vais essayer de vous présenter. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un système international? Malgré vos propos liminaires aimables, la question n'est pas si simple. Les politologues tentent à donner une vision très théorique du système international, définie parfois de façon minimaliste comme un état de la vie internationale à un moment donné. On a par exemple souvent utilisé en politologie des concepts que d'ailleurs tout le monde reprend, ils sont utiles, des concepts de système unipolaire, bipolaire, multipolaire, hiérarchisé ou équilibré, ou encore des concepts de système plus ou moins homogène ou hétérogène en fonction des régimes, des États concernés, etc. Les historiens, sans ignorer ces catégories, posent le problème autrement et cherchent à prendre en compte tous les facteurs qui contribuent plus ou moins directement aux relations internationales et toutes les forces qui, en permanence, les font évoluer. D'autre part, les historiens des relations internationales ne veulent pas séparer l'étude du système de celle des objectifs poursuivis par ses acteurs et cherchent à repérer les dynamiques, les évolutions, les modes de fonctionnement et peut-être surtout d'ailleurs de dysfonctionnement. Pendant longtemps, les historiens se contentaient de distinguer, grosso modo, entre les systèmes de type impérial imposés par une superpuissance, l'Empire romain ou le Saint-Empire romain germanique, tel en tout cas que Charles Quint le rêvait, d'autre part les systèmes reposant sur l'équilibre des puissances, équilibre qui inspirait les traités de Westphalie ou encore le congrès de Vienne. De David Hume et son livre fameux de 1754, On the Balance of Power, à Raymond Aron et à Kissinger, cette vision que l'on qualifiera donc de réaliste a dominé pour les relations, pour les historiens de relations internationales. Elle a certainement sa validité. Incontestablement, toute l'histoire des relations internationales depuis 1815 montre que les considérations d'équilibre des puissances ont toujours eu leur place en Europe et dans le monde. Mais la recherche historique depuis une vingtaine d'années a montré, à partir de l'exemple européen du XVIIIe au XIXe siècle, exemple dont l'étude a été totalement renouvelée depuis 15 à 20 ans, a montré donc que l'équilibre international est bien davantage qu'un simple équilibre mécanique entre les puissances, ce à quoi on l'a trop longtemps réduit. À la suite de profondes évolutions de la traditionnelle histoire diplomatique, devenue histoire des relations internationales, on a admis qu'un système international repose sur trois éléments principaux. Bien sûr, il est toujours fondé sur un équilibre, ou plutôt sur un ensemble d'équilibres et de sous-équilibres entre les puissances. Mais un système international ne se limite pas à cela, il comporte aussi des structures juridiques, avec les traités et un droit international en développement constant, mais aussi des structures diplomatiques, avec les relations bilatérales codifiées et systématisées lors du congrès de Vienne en 1815, ainsi qu'avec les différents types de conférences internationales qui, depuis Vienne, ont progressivement fait apparaître un ensemble de relations multilatérales débouchant sur des organisations permanentes comme la Société des Nations, puis l'ONU et les organismes qui sont rattachés à cette dernière. Mais dès le milieu du XIXe siècle, et ceci parfois moins bien connu, on était déjà allé au-delà de la diplomatie traditionnelle et des congrès diplomatiques. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, des organismes internationaux permanents, comme la Commission européenne du Danube, dès 1856, ou ce qu'on a appelé longtemps les unions administratives, terme montre bien d'ailleurs le doute qui étreignait les spécialistes du droit international devant ces nouvelles organisations, ces unions administratives, les exemples sont nombreux. Union générale des postes en 1874, Convention internationale du télégraphe en 1875, Bureau international des poids et mesures la même année, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle en 1883, Union internationale pour la protection de la propriété littéraire en 1886, par exemple, il y en a d'autres. Cette évolution vers une organisation internationale multilatérale permanente, dépassant les pratiques diplomatiques classiques et prenant en compte certains aspects de ce qu'on appelle maintenant la société civile, s'est accélérée avec les conférences de la Haye de 1899 et de 1907 qui instaurèrent le principe de l'arbitrage international et créèrent une cour permanente d'arbitrage. On gardera en mémoire pour la suite que ces évolutions du concert européen, comme on l'appelait à l'époque, étaient largement le résultat de la prise en compte par la sphère interétatique des impulsions venues du monde de l'économie, de celui des nouvelles techniques industrielles, des nouveaux moyens de communication, et aussi des acteurs du droit privé, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle par exemple, des acteurs du droit privé confrontés à cette première phase de mondialisation à partir que le monde connaît depuis les années 1860. Et également, ce mouvement était largement le résultat des critiques apportées par de nombreux juristes internationaux aux limites que connaissait le concert européen, ses injustices, concert européen qui en effet était seulement celui des grandes puissances, les petites étant priées de s'aligner sur les décisions des grandes puissances. Si vous lisez les revues de droit international belge ou suisse, si vous lisez les écrits du futur président américain Woodrow Wilson avant la guerre de 14, vous avez à la fois une critique complète du système d'avant 1914 et en même temps l'ébauche du système que nous avons continué depuis, à partir de 1919, à construire qu'un cas. Et cela se poursuit, au moins intellectuellement, l'essentiel de ce que je vais vous dire était déjà perçu avant 14. Le troisième élément, donc après l'équilibre et après les structures, le troisième élément étant l'existence d'un minimum de valeurs de civilisation commune à l'ensemble du système considéré et constituant les normes de fonctionnement de ces structures. Dans le cas de l'Europe avant 1914, on notait un ensemble de solidarités culturelles, religieuses, économiques, sociales, d'un bout à l'autre du continent. Le concert européen reposait aussi sur un ensemble de valeurs communes, sur le sentiment d'une civilisation partagée, sur des forces profondes informées et canalisées par une volonté politique constructive. Si vous éprouvez à ce sujet des doutes, relisez les mémoires de François Guizot ou son cours sur la civilisation européenne qui explicite très clairement tout cela. Ces valeurs communes étaient les suivantes: indépendance et solidarité des États, légitimité des mêmes États, principe de réciprocité, respect des traités et, plus largement, l'héritage d'une civilisation européenne d'origine chrétienne, mais avec, en outre, l'apport des valeurs libérales, des Lumières, du 1er 18e siècle. Là, il faut limiter la chose à cette période. Et de fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale et à la Révolution russe, le continent européen a connu un degré d'unité culturelle, économique, juridique, malgré toutes ces différences, qui ne commence à retrouver qu'aujourd'hui, après la fin de la guerre froide. Même la Russie, certes fort différente à bien des écarts, était moins éloignée des normes juridiques, économiques et sociales du reste de l'Europe que ne le fut plus tard l'Union soviétique. Lorsque mes étudiants s'étonnaient de propos de ce genre, je leur disais « c'est très simple, un Français pouvait aller faire de la banque ou des affaires ou de l'industrie dans l'Empire russe avant 1914, tombait amoureux d'une dame russe, il épousait, ils avaient des enfants, et au moment de la retraite, il revenait en France avec son épouse russe, les enfants, sa fortune, etc. » À l'époque, l'Union soviétique, il ne pouvait pas faire d'affaires en Union soviétique. S'il avait le malheur de tomber amoureux d'une soviétique, ses problèmes commençaient. Si jamais il arrivait à l'épouser, et s'ils avaient des enfants ne pouvaient pas revenir en France, et ainsi de suite. C'est bien la différence entre les deux systèmes que nous avons connus. On peut donc, à mon avis, comprendre l'Europe comme un système formé de réseaux croisés, d'accords et de relations diplomatiques, bi- et multilatérales, réseaux encadrés par des structures juridiques et diplomatiques et par des valeurs de civilisation. Et lorsque l'Europe a cessé de dominer le monde et est devenue un élément d'un système mondial, par extension, ces différentes catégories se sont étendues à l'ensemble de la planète. Bien entendu, deux guerres mondiales et une mondialisation, qui a commencé en fait dès les années 1860, font que l'on ne parle plus, après 1914, en effet, d'un système européen, dans lequel l'Europe dominait d'ailleurs le reste du monde, mais d'un système international de plus en plus mondial, vraiment mondial d'ailleurs seulement depuis 1990 et la fin de la guerre froide. Mais les historiens retrouvent toujours, même après 1945, même après 1990, les trois éléments essentiels. Le système international suppose en effet, pour fonctionner sans crise majeure, un minimum d'équilibre, un minimum de structure et de valeurs partagées. J'ai dit un minimum. Un système international ne vise pas à la perfection. Comme le disait toujours Jacques Bainville, les choses s'arrangent, mais mal. Certes, il est arrivé que le système européen, puis international, échoue brutalement, soit totalement, ce sont les deux guerres mondiales, bien sûr, soit de façon localisée ou limitée. Ce sont les conflits dits limités, même s'ils ne sont pas limités pour les peuples directement intéressés, mais enfin on les appelle limités, qui constituent d'ailleurs ces conflits, en fait, pour l'historien, la règle et non l'exception dans l'histoire. Mais parfois, même dégradés, le système continue à fonctionner qu'à un quart encore de longues années. Un premier exemple est le système européen entre 1870 et 1914 qui, déjà sur bien des points, s'écartait du concert européen classique, en particulier avec l'invention bismarckienne des alliances permanentes dès le temps de paix. Néanmoins, le système a continué vaille que vaille jusqu'en 1914. Un autre bon exemple, le système international dégradé ou imparfait mais relativement stable, a été la guerre froide, extrêmement dangereuse. Maintenant qu'on connaît l'histoire des grandes crises nucléaires de Berlin ou de Cuba, la guerre froide était vraiment extrêmement dangereuse. Enfin, elle n'a pas débouché sur un conflit ouvert et elle a fini par se résorber. Pour quelle raison? Parce qu'un certain équilibre était maintenu entre les deux camps vaille que vaille, parce qu'un minimum de structure, d'autre part diplomatique, le dialogue n'a jamais été rompu, et même juridique, à partir des accords de 1945 de Potsdam, qui n'ont jamais été réellement remis en cause, ont permis d'atteindre, au moment de la fin de la guerre froide, la mise en place d'un nouveau système, encadrant en particulier la réunification allemande, qui était le point central. Et si vous relisez le traité 2+4 de 1990, il fait référence explicitement aux accords de Potsdam, considérés de façon évidemment théorique comme accomplis par la réunification allemande. C'est cet ensemble qui a permis à ce conflit extrêmement grave de ne pas déboucher sur un conflit ouvert, même s'il était, ce système de la guerre froide, extrêmement dégradé, c'est tout à fait clair. On peut dire que le système international se dégrade quand l'équilibre n'est plus que l'équilibre qui s'établit entre des puissances ou des groupes de puissances opposées et qui ne repose plus sur la coopération internationale et la compatibilité au moins relative des objectifs nationaux. Il est dégradé quand les structures sont vieillies ou sclérosées par rapport à l'évolution du monde, quand les valeurs communes sont réduites à un minimum abstrait et sans réel dynamisme. Cette dégradation ne produit pas forcément à elle seule une crise majeure, une structure ne débouche pas toujours sur un événement, mais cette dégradation peut préparer le terrain d'une crise majeure, surtout si les objectifs des différents acteurs deviennent absolument incompatibles. C'est un aspect à garder à l'esprit dans la crise actuelle, qui n'est pas seulement une crise financière ou économique, mais aussi une crise d'adaptation difficile des structures et des politiques aux nouvelles réalités internationales découlant de la mondialisation. En effet, où en est-on aujourd'hui? Certains pensent assister au dépérissement ou du moins à la relativisation des États comme acteurs du système international. Ils croient constater que la souveraineté des États rencontre des limites croissantes et souvent s'en félicitent, en particulier au nom du droit d'ingérence à des fins humanitaires, par exemple. D'autres pensent que les États résistent et affirment la pérennité d'un système international d'abord interétatique. C'est le cas, une fois de plus, de Kissinger, qui conçoit depuis les années 70, d'ailleurs, le monde comme un ensemble de sous-équilibres régionaux, les États-Unis jouant un rôle clé dans chacun de ces sous-équilibres. Les historiens se montrent en général prudents dans ce domaine et ne pensent pas que la mondialisation, dont certaines réalités ne sont pas niables, remette définitivement en cause le rôle des États. En 1990, on avait pu penser, avec la perception d'une victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché, que, je cite, « le nouvel ordre mondial allait triompher ». Après l'échec des États-Unis et de l'ONU en Somalie en 1994, les problèmes rencontrés en Irak et en Afghanistan depuis 2003 par les États-Unis et leurs alliés, force est de constater que la parenthèse de l'après-guerre froide a pris fin. Quels équilibres imaginer désormais ? À la lumière des catégories et facteurs soulignés ici depuis 1815, si on ne retient pas l'hypothèse de l'anarchie généralisée et inversement l'hypothèse d'un monde post-national où la question de l'équilibre n'aurait plus de sens. Et à quelles conditions ces nouveaux équilibres? Je me refuse bien entendu à engager ici la moindre prospective, cependant il est clair que les États-Unis continueront à jouer un rôle mondial essentiel, même si Washington n'a pas ou n'a plus les moyens de soutenir la posture unilatérale du wilsonisme botté, selon l'expression de Pierre Asner. Mais dans quelle constellation? Dans une nouvelle relation bipolaire, mais cette fois-ci avec la Chine, qui pourrait être un mélange de confrontation, mais aussi de coopération forcée, à l'instar au fond de ce qu'ont été les relations américano-soviétiques à partir des années 60. La compétition stratégique commence à apparaître entre la Chine et les États-Unis, ou à se développer, la compétition des systèmes de valeurs aussi, entre le capitalisme autoritaire de Pékin, qui peut séduire encore de par le monde bien des régimes, et le capitalisme libéral mal en point ou essoufflé, comme vous voudrez, de Washington. Les relations économiques entre les deux pays, en revanche, correspondent bien au couple confrontation-coopération que j'ai écrit il y a une seconde, car les bons du Trésor américain d'une part et les importations chinoises d'autre part, vers les États-Unis, plutôt constituent un couple apparemment indissociable pour le moment. Mais un tel nouveau système bipolaire n'est pas ce que souhaite l'establishment américain, qui préférerait de beaucoup l'établissement d'une nouvelle série d'équilibres, mais centrée sur Washington, avec un réseau en étoile de relations bilatérales entre Washington et les principaux acteurs. Il n'est pas du tout sûr désormais que Washington arrive à ce réseau en étoile, car les autres pôles, et en tout premier lieu la Chine, sont en train d'organiser leur région autour d'eux avec des sous-équilibres régionaux. Des remarques semblables s'appliquent à la Russie, à la Turquie, à l'Iran, à l'Inde, au Brésil, chacun dans son environnement régional. Une grande inconnue étant de savoir si l'Union européenne parviendra à devenir un acteur international à part entière. Bien entendu, les États-Unis chercheront à poursuivre leur rôle mondial en restant présents au moins comme arbitre ou partie prenante dans les différents sous-équilibres régionaux. Mais les autres grandes puissances chercheront de toute évidence à en faire autant, et on entrerait dans ce cas dans un système d'équilibre fort complexe, d'équilibre changeant, rappelant un peu ce qu'était le système européen dégradé du début du XXe siècle. D'autre part, la disparition ou l'affaiblissement des structures stratégiques mises en place depuis 1945, au premier rang desquels le couple dissuasion nucléaire non-prolifération, les deux étant étroitement liés, la multiplication des acteurs, nationaux ou non, la multiplication des possibilités de tensions économiques, y compris autour des matières premières, démographiques, religieuses, culturelles, techniques, s'ajoutant aux problèmes géopolitiques plus classiques, rendrait dans ce cas les équilibres internationaux moins stables que ceux que nous avons, que notre génération en tout cas a connus. Cependant, le meilleur moyen de combattre ces incertitudes est de maintenir une certaine stabilité et sans doute d'aller au-delà d'un simple équilibre mécanique entre les États, finalement de moins en moins significatif, dans un monde de plus en plus complexe et dématérialisé, si vous me passez l'expression, et de développer des structures juridiques et relationnelles internationales adaptées au monde nouveau et appuyées sur un minimum de valeurs partagées ou au moins compatibles. Si les nouveaux équilibres sont incertains et imprévisibles, les structures internationales, elles, se renforcent incontestablement, on y voit plus clair. Incontestablement, l'ONU a retrouvé en partie après 1990, après le blocage dû à la guerre froide, le rôle qui avait été prévu pour elle en 1945 et qui devait trancher sur l'impuissance de la Société des Nations, en particulier grâce au chapitre 7 de la Charte. Depuis les résolutions récentes du Conseil de sécurité à propos de la Libye, et depuis l'intervention des troupes de l'ONU en Côte d'Ivoire, le concept de responsabilité de la communauté internationale envers les populations à protéger commence à l'emporter sur celui de la souveraineté intangible des États. Et même la Russie et la Chine n'ont pas, dans les deux exemples cités, fait obstacle au Conseil de sécurité. Les structures internationales commencent à surplomber, et je ne trouve pas de meilleur mot, à surplomber le système interétatique. Ceci dit, les États ne disparaissent pas. Leur contribution militaire reste la base concrète de l'action internationale. Et dans deux exemples qui ne sont pas si anciens, le Kosovo en 1999 et l'Irak en 2003, d'importantes opérations militaires ont été conduites sans l'aval explicite, pour dire le moins, des Nations Unies. Autre développement important, la création de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est substituée au GATT. Mais je voudrais vous rappeler que l'OMC était prévue, en fait, par le gouvernement américain dès 1944, dans la suite des grandes organisations internationales avec le FMI, etc. Et c'est l'échec du projet rooseveltien à l'époque, à cause de la guerre froide, qui avait conduit à la création du GATT en 1948, qui était évidemment un accord beaucoup moins ambitieux que l'OMC. Là aussi, c'est la fin de la guerre froide et de la division du monde en deux systèmes économiques rivaux qui a permis le rattrapage de ce qui avait échoué après 1947. Et soit dit au passage, il ne faut jamais oublier que du point de vue américain, ce qui se passe depuis 1990, c'est en large mesure ce qu'ils avaient voulu faire dès la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait pas à l'époque pu marcher. Quant à la Cour pénale internationale, cour permanente prenant la suite des tribunaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, sa création à partir du statut de Rome de 1998, même si celui-ci n'a pas été ratifié par tous les États et pas, sauf erreur de ma part, par les États-Unis, cette création marque le début d'une justice internationale permanente établie au-delà de la compétence territoriale des États. Même si la notion d'agression n'a été définie en droit international par les instances de l'ONU qu'en 2010 seulement, n'est-ce pas, ce qui est quand même extrêmement récent. Bien entendu, il ne s'agit encore que de débuts timides, mais dans ce mouvement, on constate que la tendance à la judiciarisation des opérations militaires extérieures, par exemple, commence à préoccuper très sérieusement les armées françaises. Celles-ci intègrent désormais totalement les aspects juridiques dans leurs opérations extérieures, y compris avec la présence d'officiers spécialisés dans les questions juridiques dans les états-majors des opérations. Mais l'interétatique ne prend pas ses droits. Parallèlement, le gouvernement français négocie des accords de force, des accords de statut sur des forces engagées, avec l'État sur le territoire duquel se déroule l'opération. Ces accords visent en particulier une immunité totale de juridiction sur le territoire d'accueil. Cela signifie en principe que, quelle que soit l'infraction commise, le personnel français engagé ne pourrait être jugé que par des juridictions françaises. À ce jour, il y a près de 90 accords en vigueur et une quinzaine en cours de négociation de force, n'est-ce pas, sur le plan judiciaire de ce style. On perçoit donc les ambiguïtés de ces nouveaux développements qui, d'un côté, voient monter les structures internationales et, de l'autre, la présence toujours forte des États. D'autant plus que les conflits sont désormais asymétriques entre des armées régulières et des groupes d'insurgés, de terroristes totalement en dehors des structures interétatiques. Ajoutons que la judiciarisation de la vie internationale n'est pas nouvelle, en fait. Elle a commencé dès le traité de Versailles, qui stipulait la livraison aux alliés, pour être jugés par eux, de plus de 800 responsables allemands, empereurs en tête. Ce fut psychologiquement et politiquement la plus désastreuse de toutes les clauses du traité, et d'ailleurs elle fut la première, dès 1920, à ne pas être exécutée. Bertrand Jouvenel avait déjà souligné le glissement du traité de Versailles de la sphère politique traditionnelle à la volonté d'appliquer dans le domaine international les normes juridiques du droit interne, comme d'ailleurs pour les réparations, notion se substituant à la traditionnelle formule des indemnités de guerre. Et Jouvenel voyait l'une des causes essentielles de l'échec de ce traité dans cette translation. La judiciarisation ne peut pas à elle seule empêcher ou arrêter des conflits, et on se demande parfois, même si on comprend très bien pourquoi elle s'est développée, dans quelle mesure ne complique pas plutôt la résolution politique de la crise. D'une façon, je rappelle qu'à la fin de la guerre d'Algérie, une loi d'amnistie bienvenue a permis de remettre le couvercle sur des événements qui n'avaient pas toujours été, comme vous le savez, conformes aux droits de l'homme. D'une façon générale, rien à propos de ces nouvelles structures internationales n'est facile, comme le montre l'échec de l'OMC avec le cycle de Doha, ou celui de la conférence de Copenhague sur le climat. La disponibilité pour concevoir les problèmes et les régler dans un cadre multilatéral paraît plutôt régresser en ce moment sous l'effet de la crise économique. De toute façon, pour les questions les plus graves, tout cela reste limité et étroitement dépendant du Conseil de sécurité, ce qui renvoie à l'équilibre des grandes puissances, comme le montre l'exemple très net du nucléaire, enfin, l'effort nucléaire iranien. Les structures internationales deviennent plus complexes, mais leur action est aussi peut-être plus imprévisible. Qu'en est-il désormais du troisième pilier que je vous avais suggéré, celui des valeurs ? Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme votée par l'ONU en 1948, on dispose désormais d'un socle extrêmement solide et clair. La véritable avancée de la Déclaration de 1948, c'est qu'elle pose pour la première fois tout être humain comme un sujet et non plus seulement un objet du droit international. D'autre part, par de nombreux articles, droit d'émigrer, droit d'asile, droit de l'auteur sur son œuvre, etc., cette déclaration de 1948 s'affirme comme dépassant le cadre national et comme fondamentalement transnational. D'autre part, cette universalité de la déclaration de 1948 est sans doute le meilleur moyen de défendre les droits de l'homme face au relativisme multiculturel qu'engendre la contestation de plus en plus forte par le monde du soi-disant modèle occidental. C'est à cause de cette contestation que certains, comme le président Obama, lors de son fameux discours du Caire en 2007, veulent éviter de donner l'impression que le nouvel ordre mondial proclamé en 1990 serait en fait occidental. Ils perçoivent plus ou moins consciemment le problème posé dès la Déclaration universelle de 1948, comme le fit remarquer alors le représentant chinois au sein de la commission qui élaborait cette déclaration, annonçant qu'il allait la voter, bien sûr, mais ajoutant, c'était la Chine de Chiang Kai-shek, pas encore la Chine communiste. Ajoutant, les valeurs de la déclaration se prétendent universelles, mais elles sont en fait occidentales. Relisez Confucius, a-t-il ajouté à ce moment-là. Certes, depuis 1990, le débat sur les valeurs tourne autour des notions de démocratie et de droits de l'homme, de façon plus universelle sans doute que cela n'a jamais été le cas auparavant. Mais cela n'évacue pas le problème posé en 1948. On l'a vu souvent lors des débats du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et dans cette enceinte, il ne faut surtout pas présenter désormais les droits de l'homme comme une création occidentale, mais les défendre parce qu'ils ont une valeur universelle. C'est ce qu'a dit le président Nicolas Sarkozy le 8 décembre 2008, à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle de 1948, en termes très directs. On peut parfaitement penser que pour la difficile mise en place d'un minimum de gouvernance mondiale, qui est nécessaire, nous le verrons, pour accompagner la mondialisation, les Occidentaux défendront d'autant mieux leur point de vue qu'ils ne les présenteront plus désormais comme Occidentaux, mais accepteront en quelque sorte de se dissoudre dans ce nouveau cadre mondial. On nous dira peut-être que le printemps arabe en cours, entre guillemets, représente une étape considérable vers l'unification de la planète autour des valeurs de la démocratie libérale. Il est à mon avis trop tôt pour le dire, je répète, je ne fais pas de prospective, mais enfin, les valeurs de la démocratie libérale sont trop, je dirais, abstraites pour subsumer à elles seules l'ensemble des divers héritages culturels, religieux, psychologiques de par le monde. L'adoption de systèmes politiques permettant aux majorités de faire appliquer leurs vues par les dirigeants ne conduirait pas forcément toujours à l'adoption réelle, au-delà du discours, des normes de la démocratie de type occidental. L'historien sait, parce que c'est justement son métier, combien les systèmes de valeurs et les représentations mentales, religieuses, culturelles évoluent plus lentement que le temps politique. Je rappelle ici que la monarchie française, lorsqu'elle incorporait une nouvelle province, mettait toujours trois siècles, pour achever complètement le processus. Et il s'agissait de gens extrêmement proches sur tous les plans religieux et culturels, bien entendu, mais 3 siècles. Cependant, l'incertitude sur l'évolution future des valeurs à l'échelle mondiale rejoint l'incertitude qui concerne les équilibres entre les puissances et le développement des structures internationales. Et il est clair que la sphère interétatique présente de nombreux facteurs possibles d'instabilité. On peut la considérer comme dégradée, dans le sens que j'ai donné à ce terme plus haut, et n'assurant qu'un équilibre instable. Certes, pour le moment, les facteurs d'opposition sont contrebalancés par de nombreux avantages liés à la collaboration internationale, qui ne souhaite pas être admis à l'OMC, par exemple, à la différence, bien sûr, de 1939 ou de la guerre froide. Les objectifs en présence, au moins pour les grands acteurs et pour le moment, ne sont pas incompatibles, malgré le point d'interrogation que pose le Pacifique pour l'avenir. Mais les crises locales se multiplient depuis 1990, les aléas de la mondialisation, la compétition pour les ressources, les mouvements migratoires, les oppositions culturelles et religieuses ne permettent pas d'exclure l'hypothèse de forte instabilité. D'autant plus qu'une chose est sûre, le mouvement qui depuis les années 70 au moins, et sous l'influence de la mondialisation, réduit la place de la sphère interétatique, même si celle-ci n'est pas près de disparaître au profit de la sphère transnationale, ce mouvement se poursuit. La sphère interétatique n'est pas en mesure de contrôler par elle-même toutes les évolutions en cours, sa part dans la gestion du système mondial diminue. Mais cela n'a rien de nouveau. L'histoire des relations internationales a succédé à l'histoire diplomatique quand on a mesuré l'ampleur des phénomènes transnationaux indépendants ou largement indépendants des États. Religion, idéologie, migration, économie. Les frontières peuvent canaliser ou freiner ces mouvements, elles ne peuvent pas les empêcher durablement. Les États-nations, ni dans l'espace ni dans le temps, ne renferment l'ensemble des réalités mondiales. Ils ont d'ailleurs connu leur apogée, me semble-t-il, entre le milieu du 19e et celui du 20e siècle. Ils sont maintenant datés d'une certaine façon. On met souvent l'accent désormais sur la perspective du dépassement du système de Westphalie, qui est le système des États, n'est-ce pas, et sur l'émergence d'une gouvernance mondiale dans un système international post-national, où les rapports transnationaux entretenus par la société civile, le par le monde, économie, culture, migration, etc., religion, ont plus d'importance que les frontières et les politiques nationales. Étant entendu que pour l'historien, ces différentes catégories ou notions ont été et sont dans les faits moins tranchées qu'en théorie. Le système international, toujours en mouvement, peut voir coexister des éléments correspondant au système interétatique et à la sphère post-nationale. Étant entendu également que si tout échoue, on se retrouve alors dans l'anarchie internationale, dont l'histoire offre également bien des exemples, et qui, au fond, menace presque toujours les marges de l'empire ou de l'équilibre des puissances. L'existence aujourd'hui d'États faillis, comme on dit, ou d'États voyous, sont des traductions de termes américains, plus les courants que l'on voit se développer dans différents domaines, montrent bien que le danger d'anarchie n'est pas nul. Il est évident que le transnational se développe de façon très puissante avec la nouvelle phase de mondialisation que nous connaissons depuis les années 70. La crise du système monétaire international, que les États ne contrôlent plus que très partiellement, a attiré l'attention, ce nous a été rappelé récemment par notre confrère Jacques de la Rosière, attirer l'attention sur le fait que désormais plus de la moitié des transactions financières dans le monde se font en dehors du système classique constitué par les banques et les banques centrales qui les contrôlent. La crise japonaise actuelle à la suite du tsunami et le manque soudain de pièces électroniques pour le reste du monde ont fait prendre conscience du fait que désormais la mondialisation ne signifie plus seulement l'extension du commerce international, mais l'intégration mondiale des processus de fabrication. À cela s'ajoute la prise de conscience progressive du fait que certains problèmes, ressources, écologie, etc., se posent à l'échelle de la planète. Quel avis qu'on ait sur ce point, c'est évident. En même temps, la mondialisation n'est pas un phénomène simple ni univoque. Certes, certains échecs, comme celui de la conférence sur le commerce de Cancun en 2003, ou jusqu'à maintenant, en tout cas, celui du cycle de Doha, peuvent être présentés comme étant justement des conséquences rugueuses du processus de mondialisation. Cependant, les comparaisons historiques permettent de replacer les périodes de mondialisation dans leur contexte. Par exemple, si sur le plan économique, la phase de mondialisation des années 1860 aux années 1920 se traduisait par une accélération du commerce international multilatéral partout dans le monde, certes centrée sur les puissances industrielles développées du nord de la planète, la vague actuelle est particulière. Le commerce à l'intérieur des grandes zones, soit le Pacifique, la zone Atlantique, l'Union européenne, augmente à un rythme plus rapide que le commerce mondial, même si ce dernier augmente certes très rapidement. On pourrait parler, si vous me passez l'expression, de mondialisation polycentrique, correspondant à l'émergence sous le niveau mondial de grands espaces économiques individualisés, soit très structurés comme l'Union européenne, soit relativement informels mais pourtant performants comme l'Asie. D'autre part, la crise actuelle peut remettre en cause la mondialisation et la croissance de la sphère indépendante des États, comme la Grande Dépression des années 30 avait remis en cause la phase de mondialisation commencée à partir des années 1860. On peut facilement imaginer le retour de plus grandes restrictions aux mouvements migratoires ou commerciaux. Remarquons également que la mondialisation ne crée pas un espace mondial homogène, mais qu'elle passe, outre les sous-ensembles régionaux déjà indiqués, par des jeux complexes de relations bilatérales, Chine-États-Unis, mais également Chine-Union européenne, Russie-Union européenne, etc. Des remarques du même genre peuvent être faites pour les phénomènes culturels ou religieux. On a associé volontiers mondialisation et unification culturelle, ne serait-ce que par le biais de l'alignement progressif des modes de vie sur un modèle dit occidental, mais la vigueur nouvelle retrouvée de toute une série de religions fort différentes de par le monde au début du XXIe siècle, montre que là aussi, le mouvement n'est pas forcément univoque. Certes, la révolution Internet peut paraître remettre tout en cause. Bien des analystes estiment que l'arrivée d'Internet transforme la question de la mondialisation et la rend plus présente que jamais. Tout le monde connaît l'article déjà fameux d'Anne-Marie Slaughter, paru en 2009 en Foreign Affairs, « America's Edge, Power in the Networked Century ». L'article commence « Nous vivons dans un monde connecté ». Elle décrit ensuite toutes les caractéristiques de ce monde. Vous aurez ça dans le texte écrit, je saute, elle conclut « Dans le monde que nous vivons, la mesure de la puissance, c'est la connectivité, le fait d'être connecté partout. Dans le monde actuel, la mesure de la puissance, c'est la capacité à se connecter. » On remarquera au passage que la notion de puissance n'est nullement évacuée de cette vision mondiale de une collègue qui est considérée comme justement l'une des théoriciennes du post-national. Cependant, les deux sphères, nationale et transnationale, se sont depuis toujours influencées réciproquement et interpénétrées. Elles ne sont jamais restées totalement étanches l'une par rapport à l'autre. Des valeurs et des revendications venues de la société civile ont été très tôt prises en compte par les diplomates. On pourrait multiplier les exemples. Les traités de Vienne, par exemple, comportent des clauses qui sont tout à fait nouvelles à l'époque, spécifiant que les droits et les propriétés des particuliers ne devraient pas être lésés par les modifications de frontières. D'autre part, ce sont les associations protestantes britanniques qui ont fait campagne contre la traite des Noirs au début du XIXe siècle, qui ont poussé à l'abolition de la traite, abolition que la Royal Navy s'est ensuite chargée de faire respecter sur toutes les mers du globe, en pendant où y courent les négriers. On pourrait évoquer la prise en considération progressive des droits des minorités religieuses ou ethniques. À l'issue de la guerre de Crimée, lors du congrès de Paris de 1856, les puissances européennes reconnurent, je cite, la haute valeur de la nouvelle loi ottomane sur les minorités religieuses, décidée par la Sublime Porte, en toute indépendance, bien entendu, indépendance tout à fait théorique, mais affirmée au nom du respect de la souveraineté des États. Au traité de Berlin de 1878, puis avec les traités de minorité imposés aux États successeurs de l'Autriche-Hongrie en 1919-1920, la question des droits des minorités entre de plus en plus dans le droit public international. Certes, ces traités sont signés volontairement par les nouveaux États, en échange de leur indépendance, et on respecte formellement le principe de non-ingérence, inscrit par ailleurs dans le traité de la SDN, article 10, principe qui était d'ailleurs à l'époque, je le ferai remarquer, progressiste, car il rompait avec les pratiques envahissantes des grandes puissances à l'époque du concert européen, dictant leur conduite aux petits pays. Mais, lors de la conférence de la paix en 1919, le secrétaire de la délégation française, Philippe Berthelot, proclame, je cite, « Dans les pays à pogrom, la question juive est un problème européen ». Donc là, on a en gestation, si vous voulez, le droit d'ingérence. D'autre part, même l'ingérence humanitaire et l'interposition sont pratiquées. Tout au long du XIXe siècle, les marines britanniques et françaises interviennent souvent en Méditerranée, certes pas toujours, mais souvent, pour sauver des minorités menacées. Lors de l'expédition française de Syrie en 1860, Ardan Dupic, l'officier connu pour ses écrits, avec l'inoubliable formule d'ailleurs « combattre de loin est le propre de l'homme », qui résume parfaitement l'essentiel de la stratégie, écrit à sa femme, Ardan Dupic écrit à sa femme, à propos de la Syrie, « on ne peut pas laisser ces gens-là se massacrer », ce qui résume parfaitement la philosophie de l'intervention humanitaire. Bien entendu, les considérations d'intérêt national ne sont jamais absentes de ces opérations, mais la question est plus complexe que les caricatures que l'on a parfois en tête. La pression des juristes internationaux, des associations, n'est pas toujours restée sans effet. Les droits de l'homme, qui ne sont pas évoqués dans les traités de 1919, même si on peut considérer qu'ils sont implicitement reconnus, font l'objet en 1948, je l'ai dit, dans le cadre de l'ONU, de cette déclaration universelle, dont toute la négociation est très significative pour notre propos. Ou encore les crimes de guerre, reconnus et condamnés comme tels pour la première fois en 1919 seulement, avant massacres, viols, vols, pillages, c'était la guerre. Les malheurs de la guerre, ce n'était pas judiciarisé, comme on dit. À partir de 1919, ça l'est très clairement. Ils sont développés ensuite jusqu'à la notion de crime contre l'humanité à l'occasion des procès de Nuremberg en 1946 et de la définition du crime de génocide par l'ONU en 1946 également. Dans d'autres sens, les États ont compris très tôt l'intérêt qu'ils avaient à tenter d'influencer la sphère civile. La Grande-Bretagne publie ses actes diplomatiques courants, actuels, ses documents les plus récents, dès les années 1860, dans les fameux Blue Books. Auparavant, ça restait totalement secret. La Grande-Bretagne est la première à les avoir publiés. Avec une idéologie, une présentation des choses qui est exactement comparable à celle des États-Unis aujourd'hui. Le Reich wilhelmien a une politique culturelle extérieure dès avant la guerre de 1914. La France prend le relais à partir des années 20 et après 1945, tous les grands pays s'y mettent. Quant aux ONG, elles se sont fondées à partir de Médecins sans frontières en 1971 pour contourner le refus de la Croix-Rouge internationale, enfin de son comité, et d'intervenir sans l'accord des États concernés, dans le cas des guerres civiles ou des guerres dites de libération. Mais les États ont appris à utiliser les ONG créées au départ contre eux. On pourrait citer le rôle des ONG américaines dans les révolutions de couleur, comme on dit dans l'ancienne Union soviétique, comme en Ukraine en 2004. On sait que le département d'État américain s'est organisé pour utiliser la toile au service des thèses et de l'influence des États-Unis, et que Mme Clinton elle-même en fait une priorité. Au fond, la véritable puissance aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer dans les deux sphères, l'interétatique et la transnationale ou postnationale. On en revient à la citation d'Anne-Marie Sauter. Dans le monde actuel, la mesure de la puissance, c'est la capacité à se connecter. Anne-Marie Sauter elle-même a traversé le miroir en passant de l'université à la direction du Policy Planning Staff du département d'État jusqu'à tout récemment. Elle vient de souligner au mois de mars l'interpénétration ambiguë des deux sphères en déclarant à propos de la Libye, je cite, savoir s'il faut aider les insurgés ou pas, bon, ça ne peut pas être un choix tranché. Vous ne pouvez pas juste abandonner le gouvernement et vous concentrer sur les rebelles. Le monde ne marche pas comme ça. La question est de savoir de quel côté de la ligne cela retombe. La question léninienne par excellence reste valable. Qui tient qui? Les États puissants ne sont pas prêts de renoncer. Pour eux, le poste national, c'est bon pour les autres. Pour répondre aux difficultés croissantes d'un système mondial hétérogène et de plus en plus complexe, est née la notion de gouvernance mondiale, terme d'origine anglo-saxonne plutôt vague, mais qui cherche à décrire la réalité actuelle et l'évolution prévisible du système mondial. Celui-ci repose en effet désormais sur un mélange d'institutions de types divers, interétatiques, transnationales, supranationales. Il y a au moins deux façons possibles de concevoir la gouvernance mondiale en cours de gestation. Une vision pragmatique ne la conçoit pas comme se substituant, mais comme complétant le système et les organismes existants. En y ajoutant la réforme du Conseil de sécurité, la réforme du Fonds monétaire international et le rôle des nouveaux organes informels comme les G8 et G20. Dans ce cas, la nouvelle gouvernance incorporerait de nombreux aspects juridiques et, d'autre part, elle reconnaîtrait que la sécurité au sens traditionnel du terme ne suffit plus, qu'il faut y ajouter les dimensions économiques, sociétales, techniques sur une planète aux ressources finies. Mais notre confrère Thierry de Montbrial, dans son livre « L'action et le système du monde » paru en 2002, a donné de la gouvernance mondiale une vision plus audacieuse qu'il développe désormais à l'occasion des World Policy Conferences annuelles. Pour lui, la notion de gouvernance, si on soupe dans les différents acteurs et pas un système hiérarchisé, correspond à la montée de la société civile au niveau international et à l'unification progressive du monde, sans toutefois que ces deux mouvements suffisent pour déboucher sur un véritable gouvernement mondial. La réalité qui, selon lui, se dessine n'est pas une mondialisation totale, mais une évolution des rapports interétatiques conduisant à une imbrication fonctionnelle croissante des États, formant de nouvelles unités politiques et des sous-ensembles régionaux à géométrie variable. La souveraineté nationale n'a pas disparu, cependant elle n'est plus absolue, comme dans le système international classique, mais de plus en plus partagée. Alors, pour achever, je voudrais faire encore deux remarques. L'une sur les ambiguïtés de la gouvernance mondiale avec les exemples des G8 et G20. Ils sont en quelque sorte entre le système transnational et le système interétatique, mais en fait, ils représentent les États. Certes, ils sont mis en place à partir de 1975, à partir de 2008, pour essayer de réagir face aux problèmes posés par la crise du pétrole en 1975, par la crise financière en 2008, au-delà de ce que pouvaient faire les structures en place de façon rapide. Mais en même temps, dans les deux cas, G8 et G20, en scrutant un peu les choses, on découvre très vite le maintien des intérêts nationaux des grandes puissances ou des puissances qui y participent. Ce qui fait que notre collègue Bertrand Badie a pu parler tout récemment dans son dernier livre à ce sujet de diplomatie de la connivence pour exprimer comment c'est l'organisme soi-disant nouveau destiné à régler des problèmes nouveaux, en fait, permettent de prolonger, bien entendu, des politiques nationales. Le défaut du système des G, si vous voulez, c'est qu'il n'inclut pas tout le monde. Bien sûr, même si c'est aussi une condition de son efficacité. Et on peut penser que le système des G ne devrait pas se poursuivre au détriment du développement progressif, par étapes successives, sans saut juridique, de ce que j'appellerais l'intérêt étatique évolué, c'est-à-dire de l'ONU, une loi internationale, des accords internationaux dans des domaines clés, comme la non-prolifération nucléaire. En effet, dans ces organismes internationaux, dans ces accords internationaux, tout le monde est inclus. La réforme du Conseil de sécurité et du FMI, même si elle est plus difficile que la tenue de sommets G7 ou G8 ou G20, est sans doute à long terme plus importante. Dernier point, le paradoxe, les États. Les États sont souvent déconsidérés de nos jours, car ils perdent de fait une partie de leurs prérogatives traditionnelles sous le poids de la mondialisation. Et il faut reconnaître qu'ils ont souvent, pour des raisons historiques, étaient constitués dans des frontières qui sont plus ou moins acceptées par les populations aujourd'hui, sont contestées. Le paradoxe est que la communauté internationale continue, depuis la décolonisation, et encore maintenant pour résoudre des crises régionales, à créer de nouveaux États, des Balkans au Soudan. Même inclus dans des ensembles plus vastes, comme l'Union européenne, dans l'avenir des Balkans par exemple, on estime que ces nouveaux États sont indispensables pour réorganiser les territoires concernés pour permettre à leur population de vivre. Les nouveaux États n'ont d'ailleurs rien de plus pressé que de se faire leur place dans le système westphalien. On a encore inventé, semble-t-il, rien de mieux. Inversement, la plupart des conflits ou des tensions actuelles sont liés, après les fortes oppositions géopolitiques et idéologiques des deux derniers siècles, au moins en grande partie aux problèmes posés par des États faillis ou trop faibles. trop faible. De la Somalie à l'Irak, à l'Afghanistan, au Congo, les conflits que doit gérer l'ONU, la communauté internationale, ne se produisent plus, comme encore dans les années 80, entre les États, mais au sein d'États plus ou moins décomposés. Faut-il moins d'États au nom de la mondialisation et de la liberté des individus, ou plus d'États pour la stabilité et la paix ? On voit donc bien, et c'est ma conclusion, qu'une compréhension plus profonde de ce qu'a été le système européen classique permet de mieux comprendre la nature du nouveau système international et de mieux cerner les conditions nécessaires pour la mise en œuvre des nouveaux équilibres qui vont bien au-delà du simple équilibre des puissances. En particulier, il faut admettre que les deux sphères, celle de l'intérêt étatique et celle du transnational, s'interpénètrent et s'influencent réciproquement depuis toujours, ce qui est ma conclusion essentielle aujourd'hui. D'une certaine façon, après le très curieux système de la guerre froide, on revient à quelque chose que, au moins, les juristes internationaux d'avant 14 auraient pu comprendre. Ils n'auraient pas trop étonné s'ils revenaient parmi nous aujourd'hui. En même temps, on perçoit que l'évolution du système, la mondialisation, l'accroissement considérable du nombre de centres de décision importants, la multiplication des enjeux, la superposition, la multiplication de réseaux croisés, de relations à tous les niveaux, mêlant étroitement considération réaliste d'équilibre, structure diplomatique et juridique et perception de valeur, tout cela repose sur des paradigmes de plus en plus complexes et la conséquence, c'est que la stabilité du système ne peut pas être garantie à coup sûr. Les facteurs de tension se multiplient. Un véritable nouvel ordre mondial me paraît être loin. La notion de gouvernance mondiale vise justement à construire cette stabilité, ou à la reconstruire, en reprenant au fond les catégories qui ont été rappelées tout au long de cet exposé. Mais cette gouvernance mondiale se heurte à la réalité d'un monde hétérogène, organisé autour d'un ensemble interétatique tenace, mais potentiellement instable, et d'un ensemble non-étatique polymorphe, largement imprévisible. Les grands États sont désormais convaincus de la nécessité d'agir à la fois dans les deux systèmes. Tout cela n'annonce pas forcément un monde plus stable, d'autant plus que les règles de droit international, les grandes structures internationales telles l'ONU, ont encore plus de mal à appréhender la sphère non étatique que la sphère étatique. La fin de l'histoire n'est pas pour demain. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous pouvez lire l'intégralité de ce texte sur le site de l'Académie www.asmp.fr. Et sachez par ailleurs que Canal Académie vous propose, avec cet historien, une dizaine d'émissions différentes.